SBS Radio.
Les grands titres de ce mardi. En Australie, le ministre du Trésor présentera le budget fédéral ce soir. En Algérie, l'annonce de la démission avant le 28 avril prochain du président Bouteflika. Le Brexit et le Parlement britannique a voté contre les quatre options alternatives à l'accord de retrait du gouvernement négocié avec Bruxelles. En Australie, le trésorier Josh Frydenberg présentera le premier budget excédentaire en 12 ans ce mardi. Le budget devrait voir une augmentation des dépenses pour les infrastructures, une augmentation des réductions d'impôts, des paiements directs aux électeurs pour ménager le coût de la vie dans le domaine de l'électricité et du gaz. Écoutons le trésorier Josh Frydenberg.
Tonight, we will deliver the first surplus in more than a decade. It's the product of responsible decisions, difficult but necessary decisions. Discipline when it comes to budget management is absolutely important because if we can get debt under control, we can ensure more spending on the essential services that people need and deserve.
Le ministre du Trésor, Josh Frydenberg, le chef de l'opposition et chef du Parti travailliste, Bill Shorten, a déclaré que le budget de ce soir ne servirait pas les intérêts du peuple australien. Il craint que la coalition utilise le budget comme un moyen de gagner des voix en faisant trop de concessions avant les prochaines élections.
If we have a surplus, I'm not going to thank the government, I thank the Australian people. And we thank our export resources industry. But let's see, and you know, we'll be constructive. But let's just call it what it is, people. This government's had 6 years. What is it that they say they can do in the next 6 weeks that in the previous 6 years they didn't do? There's been too much instability. Three Liberal Prime Ministers, 13 energy policies, 22 reshuffles. Now they want at 5 minutes to midnight to get you to forget all the chaos.
Voilà le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten. Les Verts déclarent qu'ils vont critiquer davantage la politique du climat du Parti travailliste. Le Labour a publié son plan hier, le 1er avril, s'engageant à encourager les plus gros pollueurs à réduire leurs émissions et à augmenter considérablement le nombre de véhicules électriques sur les routes. Le député des Verts, Adam Bent, a accusé le Parti travailliste d'ignorer le changement climatique.
If you don't have a plan for coal, then you are not serious about climate change. What Labor has offered up is a dog's breakfast of Liberal Party leftovers. It's essentially cobbling together plans that the Liberal Party thought up, and as a result, it's got no plan for coal, and it won't meet the Paris goals of keeping global warming below 1.5 degrees.
Le député des Verts, Adam Bent. Les responsables du syndicat de l'éducation se battent pour obtenir plus de fonds pour les écoles publiques. Le syndicat a vivement critiqué les accords de financement des écoles publiques conclus par le gouvernement fédéral, affirmant que les projets de la coalition laisseraient 99% des établissements au bas du classement face aux lycées privés. Une manifestation devant le Parlement survient quelques heures à peine avant que le trésorier Josh Frydenberg présente le budget fédéral.
Every week, families in this country have to make difficult choices. Everything's been going up except their wages. There are parents, as we speak, who, when the bill comes in from the school for the extras, for the camp, for the music lessons, they make very hard choices. How on earth did we arrive at a state in 2019 where education's becoming an optional cost? Where families are being asked to bear more of the burden of educating their kids.
Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, une motion de censure sera présentée au Parlement ce mardi, alors que le sénateur Fraser Anning continue de défendre ses propos suite aux attaques de Christchurch dans deux mosquées de la ville. Il blâme le programme d'immigration de la Nouvelle-Zélande. La motion sera présentée par le chef des Verts, Richard Di Natale, et comprend une suspension de 2 semaines des séances et des comités parlementaires pour Fraser Hanning, alors que les sénateurs Darren Hinch et Brian Burston ont déclaré qu'ils soutiendraient la motion. Les travaillistes et au moins 4 crossbenchers devront soutenir cette initiative pour réussir. Fraser Hanning, quant à lui, affirme que la censure est une atteinte à la liberté d'expression.
I was never blaming the victims. I was just pointing out a fact that when you bring more and more of these people into the country, it costs us more money and we have much more violence in the country. I tell you what I would do is, you know, go to the source and stop bringing the people in. Sooner or later we're going to run out of money or we're going to run out of police officers to try and control it.
Le sénateur Hanning, le vice-premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a critiqué le sénateur Hanning sur ses commentaires sur la tuerie dans les mosquées. Le vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters a qualifié le sénateur de, je cite, « crétin » et souhaite que l'Australie modifie son système politique de manière à éviter que ce genre de personne soit élu au Parlement. Le Parlement australien votera donc aujourd'hui pour réprimander le Queenslander d'avoir blâmé les attaques terroristes du 15 mars dernier à cause de l'immigration musulmane. La mort d'un apprenti âgé de 18 ans à Sydney, qui a été effectuée par l'effondrement d'un échafaudage sur un chantier de construction à Sydney, a été qualifiée de choquante et déchirante par les dirigeants politiques australiens. Christopher Cassanity est décédé après être tombé de la structure de près de 8 mètres et resté pris au piège sous les débris. Le Premier ministre a envoyé ses condoléances à la famille et à ses collègues de travail, tandis que le chef de l'opposition, Bill Shorten, a qualifié la mort de choquante. Les autorités poursuivent leur enquête ce mardi. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril prochain, date de l'expiration de son mandat. Le départ du président était une demande des manifestants. Ils l'obtiennent après presque 6 semaines de manifestations. Le point avec Binta Diaye pour Radio France Internationale.
L'annonce est tombée vers 17h dans un communiqué très bref. Le 28 avril, vous l'avez dit, c'est donc la fin du mandat électif d'Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, toujours selon ce communiqué de la présidence, d'importantes mesures devraient être prises pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État pendant toute la période de transition. On n'a donc pas à ce jour de date précise concernant la démission officielle du président, ni de détails concernant les mesures envisagées pour encadrer la période de transition. Selon la Constitution, une fois que la démission sera actée, c'est le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, qui devrait assurer l'intérim pendant une période maximum de 90 jours, une période durant laquelle une nouvelle élection doit être ensuite organisée. Dans l'immédiat, la démission programmée du président a suscité un optimisme mesuré de la part des Algériens dans les rues, qui réclament la fin de tout un système et non pas seulement d'une personne.
Binta Diaye pour RFI. Le Brexit et le Parlement britannique a voté contre les 4 options alternatives à l'accord de retrait du gouvernement négocié avec Bruxelles. Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, déclare qu'une décision doit être prise.
It's disappointing that no solution has won a majority this evening, but I remind the House that the Prime Minister's unacceptable deal has been overwhelmingly rejected 3 times.
Le chef de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn. Aux États-Unis, selon la commission de contrôle de la Chambre des représentants, une 20aine d'accréditations secrets défense ont été distribuées par la présidence américaine contre les avis défavorables des services qui mettraient la sécurité nationale en danger. Explication Anne Corpé pour RFI.
C'est mon dernier espoir de ramener l'intégrité dans notre bureau. Je ne rendrai pas service à mon pays si je taisais ces problèmes qui peuvent avoir un impact sur la sécurité nationale, a déclaré Tricia Newbold devant la puissante commission de contrôle de la Chambre. Employée depuis 18 ans au bureau de la sécurité du personnel de la présidence, la lanceuse d'alerte signale 25 cas où son avis et celui de ses collègues n'ont pas été écoutés. Malgré leurs inquiétudes sur les liens des personnes personnes concernées avec l'étranger, les possibilités de les soumettre à une forme de chantage ou en raison de conflits d'intérêts, tout ont obtenu leur habilitation secret défense. À la suite de ce témoignage, la commission du Congrès a adressé un courrier à la Maison Blanche. Elle veut convoquer le supérieur hiérarchique de Tricia Newbold et menace de la signer si la Maison Blanche ne coopère pas. Toutes les personnes qui ont reçu l'accréditation défense malgré les avis défavorables des services ne sont pas nommées, mais Jared Kushner, le gendre du président, sa fille Ivanka Trump et le conseiller national à la sécurité John Bolton sont sur la liste. Les démocrates évoquent un abus de pouvoir du président.
Anne Corpé pour RFI. La taxe carbone a été imposée dans 4 provinces du Canada. Explication de Patricia Lecomte pour RFI.
Taxer le carbone, c'est lui donner un prix par rapport à son coût, prix censé permettre aux États de financer la transition énergétique. Pionnière, la Suède a mis en place la taxe carbone en 1991. Initialement établie à 26 euros la tonne de CO2, elle a augmenté au fil des années pour atteindre aujourd'hui 120 euros, c'est la plus élevée au monde. Une hausse acceptée par les Suédois grâce à une baisse des impôts pour les ménages. Résultat, le pays a divisé par deux ses émissions de gaz à effet de serre. Dans son sillage, le Danemark, la Finlande, la Norvège, puis plus tard le Royaume-Uni ou la Slovénie ont introduit des taxes sur le CO2. La France l'a instaurée en 2014 au prix de 7 euros la tonne. En 2018, elle était à 44,60 €, mais suspendue en 2019 pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Elle devrait en 2030 atteindre les 100 euros. Au total, 46 pays dont l'ensemble des États membres de l'Union européenne et 26 provinces d'Amérique du Nord ont mis en place une tarification du carbone qui a généré 26 milliards d'euros de revenus en 2017. Mais au regard de l'enjeu, l'OCDE rappelle que cela reste insuffisant si l'on veut répondre aux objectifs de l'accord de Paris.
Patricia Lecomte pour RFI. Et puis en Allemagne, la décision d'interdire depuis hier les véhicules équipés d'un moteur diesel en ville. Explication de Pascal Thibault pour RFI et je parle de la ville de Stuttgart.
108,50 €, c'est ce que coûtera la contravention tout frais compris pour les automobilistes. À partir d'aujourd'hui, les interdictions de circulation pour les plus vieux véhicules diesel sont renforcées à Stuttgart. Depuis le 1er janvier, les voitures et camions venant d'une autre région étaient concernés. À partir de ce lundi, seuls les véhicules diesel disposant au moins de la norme 5 pourront circuler dans la capitale du Bade-Württemberg, peu importe le lieu de leur immatriculation. Des dérogations sont prévues pour les camions de livraison, les artisans, les ambulances, les pompiers, la police. D'autres peuvent être sollicités auprès de la mairie. Il n'y a pas de contrôle spécifique, les véhicules ne sont pas équipés de vignettes, ce qui relativise quelque peu la nouvelle réglementation. Une nouvelle manifestation contre ces mesures a eu lieu avant-hier à Stuttgart. Leurs initiateurs veulent même participer aux municipales fin mai. Un récent sondage montre que le soutien pour ces mesures a fondu au soleil. Dans la région, les deux tiers des personnes interrogées s'opposent à ces interdictions. Un quart les soutient, contre la moitié à l'automne dernier.
Pascal Thibault pour RFI. Un mot de sport, le football féminin en Australie. Les Australiennes sont arrivées à leur camp d'entraînement aux États-Unis en prévision du match amical de vendredi prochain contre les favoris de la Coupe du Monde, les États-Unis. Et ce sera à Denver, au Colorado. Tout est en préparation pour la Coupe du Monde qui débute le 7 juin prochain. On écoute l'attaquante des Matildas, Emily Jilnick.
Winning the tournament and winning those games like we did, I think it was all positive football and it's us going in a good forward direction. So it's, you know, just working on our attacking style and making the games look pretty and making it enjoyable for the fans. So, you know, it's important to keep that winning streak going and keep playing in that positive style of football.
Voilà l'attaquante des Matildas, Emily Jilnick. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 27 degrés, Adélaïde 27 également, Melbourne 25, Hobart 20, Canberra 23, Sydney 24, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi en Australie, le ministre du Trésor présentera le budget fédéral ce soir. En Algérie, l'annonce de la démission avant le 28 avril prochain du président Bouteflika. Le Brexit et le Parlement britannique a voté contre les 4 options alternatives à l'accord de retrait du gouvernement négocié avec Bruxelles. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.